Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien, pour vous accueillir sur La Route Inconnue, le magazine de Radio Ranciel entièrement dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Je vous rappelle que La Route Inconnue n'existerait sans doute pas, en tout cas sous sa forme actuelle, sans le partenariat de la revue Décharge, et je salue ici Jacques Morin, que vous retrouverez tout à l'heure pour sa chronique mensuelle. Vous retrouverez également un autre pilier de la revue Décharge, Louis Dubot, ainsi que Georges Catalo et Jean-Claude Touzaï. Mon invité du jour, eh bien, je suis très heureux de l'accueillir. Il s'agit de Philippe Matty, poète belge d'expression française qui a été couronné de très nombreux prix et qui a derrière lui déjà une œuvre très conséquente. Par ailleurs, Philippe Matty a longtemps été l'animateur du site du légendaire journal des poètes. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va essayer de mieux connaître l'homme derrière le poète. Vous avez eu une enfance assez étonnante puisque vous êtes né dans l'ancien Congo belge qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ma première question, est-ce que vous avez des souvenirs du Congo belge ?
Honnêtement, très peu. Il faut savoir que je suis revenu en Belgique quand j'avais 4 ans. Et donc, je me demande toujours les souvenirs, s'ils sont vraiment, je dirais, des souvenirs ou si ce sont les images. Parce que mon père filmait donc des films et des photos que j'ai vues après. C'est très difficile de faire la différence entre les souvenirs et ceux que je me suis peut-être construit après dans l'enfance, avec ce que racontaient les parents et les documents qu'ils me montraient.
Oui. En tout cas, est-ce que le Congo a eu une place dans votre imaginaire d'enfant ?
Oui, très certainement. Oui. Très certainement, parce que, par exemple, quelque chose qui m'a toujours frappé, mes parents me racontent que jusqu'à l'âge de 4 ans, donc je parlais swahili avec ma nounou. Donc mes parents ne comprenaient pas la jeune fille qui s'occupait de nous, parce que il fallait absolument, quand les enfants jouaient dehors, il pouvait y avoir des serpents dans la pelouse et tout. Donc, on avait une nounou. Et moi, je parlais swahili avec ma nounou. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui me poursuit, de se dire que j'ai connu une autre langue que j'ai perdue.
Oui. Ah oui, c'est tout à fait extraordinaire. Et quelle langue, le swahili, hein. Ouais. Alors ensuite, vous êtes retourné en Belgique et vous avez grandi donc à Saint-Denis, c'est un petit village entouré de bois et d'étangs. Or, qui vous lit, qui vous connaît, qui connaît le poète que vous êtes, sait que la nature a beaucoup d'importance, une grande place dans votre poésie. Alors là, j'imagine que ce petit village a eu quelque importance dans le développement du poète Philippe Matty.
Vrai, là, très très important, parce que donc après, quand je parle de ma jeunesse à Saint-Denis, oui, ce sont les bois, les étangs. Il y avait une abbaye, l'abbaye de Saint-Denis, qui était aussi un terrain de jeu extraordinaire, parce qu'il y avait un parc des bois. Et alors, ce n'est pas tout. À l'adolescence, je pense à l'abbaye, parce que le long du mur de cette abbaye, donc tout près, habitait un peintre, Yvon Vandyck. J'arrive là à l'adolescence et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et donc, la poésie, la peinture, c'est là aussi, je dirais, à Saint-Denis que j'ai eu mes premières rencontres importantes.
Oui, et vous aviez 15 ans, vous étiez très, très jeune, hein ? C'est-à-dire que vous avez commencé à écrire à 15 ans ?
Oui, je dirais, mes premiers poèmes, c'est comique parce qu'à la maison, il y avait une anthologie de la poésie espagnole. Je me souviens de Mathilde Pomès. J'ai une de mes filles qui s'appelle Mathilde. Et c'est par cette anthologie que je suis rentré en contact avec la poésie espagnole, donc vraiment traduite, quoi, hein, Machado, Hernández, Lorca. Et puis, comme tous les adolescents, j'ai commencé par imiter, mais je n'ai pas gardé mes poèmes de mes 15 ans.
Oui. Oui. Il y avait donc des livres à la maison, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez été un lecteur, vous avez été un enfant qui était plutôt quelqu'un qui passait beaucoup de temps avec ses copains à faire, je sais pas, du sport ou à partir en escapade, ou est-ce que vous étiez plutôt studieux et lecteur ?
Non, je n'étais pas studieux. Non, non, j'étais plutôt, oui, à partir dans les, aller dans les bois. Je me levais très, très tôt, je me souviens avec Alain, un ami, on se donnait rendez-vous, on partait avec nos vélos, donc on se donnait rendez-vous vers 5 heures du matin pour aller voir les chevreuils qui descendaient boire à l'étang. Et honnêtement, je n'ai même jamais été un bon élève dans mes études.
Oui, vous
Mais par
êtes.
contre, dès la 12, peut-être 12 ans, je ne sais pas, un grand lecteur. Ça, j'ai toujours été un grand lecteur.
Alors, quelles étaient vos lectures de chevet, si j'ose dire?
Les lectures qui m'ont marqué.
Ouais.
J'ai commencé comme tout le monde, je dirais, avec le Club de 5,
Oui.
etc. Et puis après, des lectures qui m'ont marqué, moi, c'est. Mais évidemment, c'est lié à la forêt, au bois. Maurice Genevoix,
Ah oui.
un auteur trop oublié. Ouais. Je parle de mes lectures de jeunesse, hein.
Oui.
Maurice Genevoix, Giono. C'est vraiment des auteurs qui ont enchanté. Et quand je parle de ma jeunesse, là, comment. Moi, je me souviens qu'au collège, les profs étaient étonnés que je lisais déjà ça, quoi, parce que c'était à l'âge où j'étais en collège.
Oui. Et puis Genevoix, c'est un français étincelant, un français très classique, très très beau, très maîtrisé. Et puis il parlait beaucoup de la nature, lui aussi, hein. Est-ce que vous avez souvenir du premier poème dont vous auriez pu vous dire, ah, ça, ouais, ça, c'est un poème, et avec l'étonnement qui va avec?
Oh là là, je ne sais plus dans quel recueil il est, mais allez, un poème dont je suis allez, très heureuse, et c'est dans un des premiers recueils, Si pur est l'air dans le buisson, je sais qu'il commence comme ça,
Oui.
mais il
Et
était publié,
il a été
c'est
publié.
peut-être dans Célébré silence, je ne sais
Ouais.
plus.
Alors, vous avez publié votre premier recueil, vous aviez 22 ans, vous étiez très très jeune, et il a tout de suite été
Oui, c'est ça.
primé, hein.
Oui. Donc, il a été écrit. J'ai écrit d'abord, tiens, enfin, pour l'anecdote, j'ai écrit beaucoup de poèmes en vers classiques.
Classique.
Je parle de ceux qui ne sont jamais parus. Hein.
Oui.
Il y en a un, Les Arcanides, c'était. Je m'étais pris d'enthousiasme pour Mallarmé. C'est Mallarmé à l'excès, c'est vraiment. Et donc, le premier paru, c'est Promesse d'île.
Voilà.
Je ne sais plus en quelle année, oui, je devais avoir 22 ans quand il est
C'est
paru, mais donc je l'ai écrit un peu avant, il y a toujours. Et ça a été le choc. Mon père est parti travailler en Algérie, et donc j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois chez lui en
en
Algérie, quoi.
Algérie.
Et Promesse d'île, en fait, une bonne part des poèmes ont été écrits en Algérie.
Vous étiez où en Algérie?
El Bihar, c'est dans la banlieue d'Alger.
Dans la
En
banlieue
fait,
d'Alger.
donc lui travaillait à Alger, hein, donc on habitait là. Mais moi, j'ai rayonné parce que là, j'avais 18-19 ans, donc je n'ai pas eu peur de partir tout seul, quoi. Je me souviens d'un tour jusque Gardaïa, donc en autobus, hein,
Oui.
mais pas l'autobus climatisé des touristes, c'était l'autobus comment, dans lequel quelqu'un est même monté avec un mouton. Il y en avait un qui avait des poules. Enfin bon. Ce sont des souvenirs extraordinaires.
Ce sont des souvenirs extraordinaires et une part de vous-même, une part de vous-même est africaine finalement, hein,
Oui,
par la naissance et puis par
un peu le soleil. Oui.
oui.
Je me rends compte avec le temps qu'à travers ma poésie, il y a toujours une recherche de la lumière et une importance de la lumière, quoi.
Ouais. Alors j'ai lu là bon nombre de vos livres dernièrement et j'y ai trouvé véritablement un lyrisme, mais un lyrisme contenu et un amour vraiment de la nature que j'avais découvert notamment chez les poètes de l'école de Rochefort-sur-Loire. Je pense à Cadou, je pense à Bérimont et je crois savoir que Bérimont a une place dans votre histoire, si je ne m'abuse.
Oui. Luc Bérimont était un ami du peintre Yvon Vandic et je l'ai rencontré. C'est même un poète avec qui j'ai une photo de moi jeune avec Luc
Oui.
Bérimont et c'est un des premiers à m'avoir encouragé avec Norge. Norge et Luc Bérimont, ça a vraiment été, je dirais, mes maîtres, quoi. Et surtout, les personnes qui m'ont encouragé, quoi, hein.
Oui.
Norge a écrit la préface de mon premier recueil. Allez, quand on a cet âge-là, c'est un encouragement.
Extraordinaire.
C'est grâce aux rencontres, c'est grâce aux autres. qu'on devient petit à petit ce qu'on est, quoi, parce qu'il nous donne beaucoup.
Oui, et vous êtes aussi un poète fraternel. On sait que la poésie de l'école de Rochefort, notamment, donc Cadou disait que c'était qu'une cour de récréation, hein, ça se prenait pas au sérieux, mais en tout cas, c'est une poésie à hauteur d'homme. Et j'ai le sentiment que vous aussi, vous évoluez à hauteur d'homme.
Ah, je l'espère. C'est une expression que Michel Baglin a utilisée.
Oui.
C'est un ami, Michel Baglin, que je regrette beaucoup. Mais je crois que c'est important. Je suis convaincu que la poésie, ce n'est pas un exercice de laboratoire, c'est de la communication.
Oui.
Il y a plusieurs poésies, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une, mais si elle n'est pas communication, je ne vois pas sa raison d'être.
Oui. Le fait que, donc, je lis, hein, et les auditeurs le savent maintenant, vous êtes donc un poète belge, mais avec évidemment un amour de la langue française, ça m'amène à parler de la poésie francophone finalement, parce que on a toujours un peu de manière bornée le sentiment que on écrit de la poésie française uniquement en France, mais non, la poésie francophone est très vivante en Belgique et depuis fort longtemps. Hein.
Ah oui, c'est vrai que la poésie belge est très 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 riche. Hein. Mais je dois dire aussi, en même temps, quand je dis ça, il n'y a aucun sentiment nationaliste, parce que j'aime beaucoup, parmi mes poètes préférés, il y a Eugenio de Andrade, que je lis en traduction.
Oui, très beau poète portugais. Hein, oui.
Il y a aussi des... on fait des découvertes fantastiques grâce aux étrangers, et pour moi qui ne connais pas les langues, grâce aux traducteurs qui sont des passeurs pour nous offrir les poésies étrangères.
Oui. Alors vous êtes vous aussi un passeur, parce que j'ai dit, vous avez été rédacteur en chef de la revue belge francophone, le Journal des Poètes, qui est vraiment une revue mythique. Mais avant de parler du Journal des Poètes, je voudrais qu'on entre un petit peu dans votre intimité d'artisan poète. Comment vous écrivez? Comment ça se passe pour vous, l'écriture d'un poème?
Pratiquement, j'ai des amis qui écrivent dans les cafés et tout. Moi, je suis incapable de ça. J'écris toujours assis à mon bureau, dans le calme et le silence, parfois avec un fond de musical, mais moi, c'est la musique classique.
Oui. Alors, vous qui étiez un enfant buissonnier, est-ce que vous l'êtes resté? Est-ce que, par exemple, vous trouvez l'inspiration dans de longues promenades dans la nature, que ce soit à Pouilly-sur-Loire ou en Belgique?
Oui, comme je dis souvent, je suis resté un rat des champs. Moi, je ne suis pas du tout un rat des villes. Depuis toujours, on a acquis cette maison ici en Belgique. On a un grand jardin, trop grand d'ailleurs, parce que maintenant je vieillis, avec un verger, il y a même un petit bois. C'est mon univers, la campagne, j'ai tout vécu. La présence des animaux aussi est très importante, la relation aux animaux, quoi. Même si on ne les touche pas, on ne les caresse pas. Enfin, ici, je nourris les oiseaux.
Ouais. Et chez vous, l'homme n'est, c'est pas la grande nature sauvage, l'homme n'est jamais bien loin. Vous avez ce souci du frère, si j'ose dire, ça transparaît dans votre poésie. Hein. C'est une nature habitée.
Oui, oui. Oui, les êtres vivants, je parlais des animaux, mais tous les êtres vivants, même à la limite les plantes, méritent aussi intérêt, quoi. Mais les hommes, bien sûr, enfin, je le répète, on ne serait rien sans autrui.
Quoi. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans votre poésie? J'allais presque dire religieuse, est-ce qu'on peut le dire?
Ah, j'espère que oui, religare, se relio. Ah oui, oui, oui. Il y a une définition de la poésie, elle est Claudel, que j'aime beaucoup. Il dit le rôle de la poésie n'est pas de plonger dans l'inconnu pour y trouver du nouveau, mais dans le connu pour y trouver de l'inépuisable.
Ah.
Ça me semble essentiel. C'est à la base de la poésie, moi, il y a le vécu, il y a le concret, il y a l'incarnation, je dirais. C'est ça,
oui.
Que je trouve intéressant, parce que tu parles de... Pardon, vous parlez de... Comment? D'une dimension religieuse.
Oui.
Et je crois qu'elle est là. dans cette manière d'appréhender le monde et les êtres vivants, en étant quête de leur part d'inépuisable, de leur part d'éternité, de quelque chose qui nous dépasse, ça ouais. C'est sûr.
Je repensais en vous écoutant, là, en écoutant la phrase que vous venez de nous citer, à une autre citation que m'avait apprise Serge Vélens, le poète Serge Vélens. Oui. Il citait saint Augustin et saint Augustin disait « Le mystère, c'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. » Ça, c'est un peu ça, je trouve. Que...
Très beau. Oui. Ah oui, oui, très beau. Et je crois que même les choses les plus simples, les plus discrètes, les plus... Quand on prend le... La poésie, je crois que c'est ça aussi, c'est prendre le temps de regarder, d'écouter, de se laisser imprégner. Et puis après, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la poésie, c'est quand on se met à écrire, il y a une expression que j'utilise parfois, moi, pour dire « on écoute la langue parler en soi ».
Oui.
Vous avez parlé du respect de la langue, parce qu'il y a quelque chose, c'est ça qui est merveilleux en poésie quand on écrit, il y a quelque chose qui nous dépasse, on est parfois étonné soi-même de ce qu'on écrit, parce qu'il y a une autre dimension qui surgit dans les... Et ouais. Je crois que c'est dû à une attention, à une ouverture, même à une écoute. C'est un grand travail, je ne dis pas que j'y arrive toujours.
Vous travaillez beaucoup les poèmes ?
Non, moi j'écris par période.
Par période ?
En fait, je crois qu'on accumule sans doute des sensations, des émotions. Et puis, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, sans doute comme un accumulateur. Et je sais traverser des périodes très longues sans écrire une ligne.
Oui.
Sauf, bien sûr, des lettres, quand j'écrivais des articles à propos des recueils, etc. Mais la poésie, c'est souvent par surgissement. C'est quand elle surgit. Et donc, c'est pas énorme. J'ai pas l'impression d'écrire beaucoup.
Vous avez une œuvre conséquente derrière vous, je le dis. On va d'ailleurs lire tout à l'heure des extraits donc de plusieurs ouvrages que vous avez publiés ici et là. Juste une dernière question avant de nous quitter et d'entrer de plein pied dans votre poésie par la lecture. Deux mots peut-être sur le journal des poètes. Hein. C'est vraiment, je le disais tout à l'heure, mais vraiment sans exagération, c'est un mythe, le journal des poètes. C'est une revue qui a compté dans tout le monde francophone de la poésie. Hein.
Oui, bien sûr. Quand Jean-Luc Vautier, donc c'était le rédacteur en chef, est décédé, personne ne voulait prendre la relève, moi non plus d'ailleurs, hein, parce qu'un travail de rédacteur en chef, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est une responsabilité aussi terrible, j'avais un peu peur. Et puis Yves Namur m'a convaincu, et un des éléments, il y a Yves qui m'a convaincu, mais un autre élément qui a joué, c'est que moi j'ai bien connu Norge, donc qui m'a aidé, et qui le Journal des Poètes a été fondé chez Norge il y a plus de 80 ans.
Hein. Ah oui.
Puis j'ai bien André Doms, qui heureusement vit toujours, qui était rédacteur en chef. Puis j'ai été ami avec Jean-Luc Vautier aussi. Et je dirais, c'est vraiment aussi par devoir. Quelque part, il y avait, je l'ai dit d'ailleurs dans un éditorial, il y avait un devoir vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont beaucoup donné, quoi. Et, ouais. Et donc c'est ça que j'ai accepté la tâche. J'espère que ces 5 années auront été bonnes pour le journal. Chaque rédacteur en chef imprime un peu de sa de ses goûts sans doute bien sûr et de sa manière d'être aussi.
Philippe,
et le journal continue, c'est ça qui est formidable.
Ouais. Un grand merci Philippe pour ce moment trop court passé ensemble, mais on va écouter quelques mesures de musique et puis après on va donc entrer de plein pied dans votre poésie. C'est comme ça qu'il faut découvrir aussi les poètes, par la lecture des livres, bien évidemment. Merci beaucoup, Philippe Matty.
Un très grand merci à vous. Merci. Thank you.
De l'autre côté de la vitre, un enfant me regarde. Comment est-il apparu là? Il ne bouge pas. De grands yeux étonnés éclairent son visage. Je le reconnais tout de suite. Lui me regarde comme on inspecte un être dont on a beaucoup entendu parler sans jamais le rencontrer. Il a disparu, mais l'ombre de mon enfant se titube encore un peu derrière la fenêtre. Je voulais écrire des textes ronds, lisses, colorés comme des ongles vernis, des textes riches d'images et de sons, cloués à jamais sur la blancheur d'un livre et dont la perfection n'éveille plus l'ombre d'une rature. De ces écrits qui enchantent l'œil et l'esprit, emportent les suffrages avant que d'être rangés au musée de cire des cierges éteints, je n'en suis pas capable. Je te le dis sans même songer en tirer gloire, car vraiment je suis infirme. J'avance, claudiquant, ne pouvant effacer après moi la trace de mes pas, pas même l'odeur de mon haleine dans le vent, et je t'écris, malgré tout, comme si l'écrit rejoignait parfois la parole. J'écris. Je cherche un sentier pour atteindre le col, passer dans une autre vallée. J'écris sans connaître le chemin, sans certitude. J'écoute la langue parler en moi, à travers moi. Je l'aide à quitter le dedans pour un possible dehors. Quand vient le soir, marée d'air chaud qui se retire, quand le soleil cesse de frapper les murs pour les toucher, les caresser, quand les bruits de la ville commencent à ressembler aux voix rassurantes que nous entendions de notre lit dans la maison d'enfance, quand la cime du tilleul frissonne, mêlant sa couleur à celle du ciel, le cœur peut s'ouvrir comme un fruit. Le ciel glisse un drap bleu au-dessus des nuages immobiles. Les lézards sont assoupis sur le mur. Un bourdon frôle de sa chanson les fleurs du fuchsia. Les fourmis vont et viennent, affairées, dit-on, à ne transporter que du silence. Seule la mésange s'agite de l'arbre à la mangeoire. Tu vis à mes côtés. L'heure semble s'être arrêtée sur le vieil escalier. Comme elle, j'ai les mains douces et chaudes pour prier. Comme elle, je n'ai rien à demander. Sur la rive, l'eau balbutie des mots que nous tentons en vain de comprendre. Peut-être faudrait-il être plus attentif à ce qui les soulève, nous plonger au cœur de ce que chante l'eau, la lumière, le passage des nuages, les ailes blanches des aigrettes. J'aimerais croire que sur les branches, des feuilles continueront de trembler dans l'innocence d'un vent frais, que le fleuve continuera d'offrir une eau limpide pour la foule discrète des poissons. J'aimerais croire que la folie des hommes cessera de dévaster ces fleuves, ces rivières, ces prairies, ces forêts, ces vallons, où l'on peut encore marcher seul, rêver à une porte qui s'ouvre, s'envoler devant un papillon qui ouvre les ailes. Fenêtres ouvertes sur le vent, dans les reflets des vitres émergent les vignes bien rangées, promesse d'un futur où s'étourdir. Fenêtres ouvertes sur la vie, les pétales bleus des volets, gestes simples du soleil qui les ouvre le matin. Notre maison. L'infini vient s'y lover jusque dans les pierres des vieux murs qui masquent l'horizon. Assis près du pont, je regarde l'autre rive, sensible au poids de l'eau qui passe, lourde comme les souvenirs enfouis, écaillés, peu à peu devenu terne dans la mémoire. Au trouble sous le couvercle du pont qui tire un trait, pourvu qu'on se décide à gagner l'autre rive. La lune dessine sur le fleuve les frissons d'un ciel trop sombre pour avouer sa peur. L'eau, elle aussi, ne laisse rien paraître. Elle passe, s'écoule, vit, sachant que vivre, c'est disparaître. Côte sauvage. Tant de nos rêves sont dressés comme ces falaises, rochers découpés, déchiquetés par les tempêtes, l'eau, le vent et les ans. Formes fantomatiques, criques taillées en gouffres au fond desquels la transparence bleue de l'eau révèle des rochers vivants d'algues mobiles, de petites plages douces que l'on ne peut atteindre que par la mer. Forme fantomatique traversée d'oiseaux. On ne se lasse pas de les contempler, songeant à ceux qui sont venus, à ceux qui viendront après nous, s'abreuver ici à la pureté d'un paysage, libre de se laisser façonner par l'océan. Coup d'aile des oiseaux sur l'eau froide des marées. Une brèche se creuse sur l'autre versant de vivre. Dans la houle intérieure, des mots, vigies attentives au silence, viennent s'abreuver à un possible futur, nous redonner le goût de vivre. Le bouquet sur le meuble de la chambre. Un petit rocher éclaté de couleurs. Devant nos yeux, il ne bouge pas. C'est en nous qu'il bouge. Comme s'il se penchait sur la lumière de nos sourires, sur le parfum de nos rencontres, sur ce qui demain se fanera. Le bouquet sur le meuble, un petit rocher pénétré d'un silence attentif. Rien ne reste, on le dit, rien ne reste. Pourtant, lorsque les mots s'entrechoquent comme des silex noirs, des étincelles jaillissent. Peut-être suffirait-il au fond de nous d'herbes sèches dans un printemps prêt à reverdir, d'une forêt de pins dans cet été trop aride, de fougères brunes couchées dans la chaleur d'octobre. Elle nous apprendrait que le feu peut toujours reprendre, nous offrir une lumière inconnue qui veille dans le silex noir et coupant des jours où l'on s'entend dire « rien ne reste ». Mer vaste et calme. Le soleil semble sortir du lent mouvement des frissons à la surface de l'eau. Très loin, une île, comme un mur d'ombre où s'abritait dans l'odeur des pins, sable chaud glissant sous les pieds nus. Dans le cœur se dénouent les rêves qu'un enfant seul pourrait comprendre. Innocence d'un passé où le feu ne se débusquait pas encore sous la cendre. Le catamaran glisse devant Watt. J'avoue perdre le cap. Où est l'île? Est-elle devant nous? Est-ce la belle vers laquelle nous voguons? Est-ce celle qui nous berce sur le chemin du retour? Ou peut-être celle qui émerge dans nos regards? Où est l'île que je puisse un jour en dessiner la promesse? Pas un souffle de vent. Le bateau sommeille, couché sur la peau de la mer. Elle ondule doucement, ventre d'une bête couchée qui respire au rythme lent d'un rêve doux. Inutile gréement, où le vent ébauche un frisson pour nous faire croire qu'il est présent. Silence et clapotis se confondent pour composer une musique bienfaisante. Parfois, le passage d'un oiseau dont le cri discret tinte aux oreilles comme un signe amical. Il est l'heure de rejoindre le palais. L'heure, on le sait, obéit au moteur. Le bateau vibre, oubliant les délices de la dérive. J'aurais tant aimé rester là, dans ce balancement dont on ne sait s'il vient du dehors ou du dedans, avec l'île comme horizon, avec cette envie de l'atteindre, comme si elle nageait au fond de moi. Le soleil semble s'être arrêté, peut-être pour la regarder car lui seul peut la voir. Sur la plage, au bout de la crique, une jeune fille de 19 ans. Son visage est plus limpide que le temps, elle aura toujours 19 ans. Tu parles et ce ne sont pas des bris du passé, mais le lever d'arc-en-ciel d'une parole après la nuit. Que serions-nous sans partager ce que nous fûmes? Route prise à revers, voyage d'amont qui conduit au futur pourvu qu'on se tienne la main en effleurant à peine la surface du chemin. Et si la poussière se soulève après les mots échangés, ce n'est peut-être que pour rejoindre un jour dans les niches des rochers les cendres et des retrouvailles. Nous les avons tant aimés. Ils ne reviendront pas. Ils se sont effacés comme rides sur l'eau. Nous continuons pourtant de remuer la vase du passé, espérant toujours en vain qu'elle ranime leur visage. Peut-être devrions-nous lever les yeux, prendre la route sans souci de mémoire. Nous en sommes incapables, nous leur devons trop. Dans nos vies, sans eux, ils sont à la fois la pente pénible à gravir et la force qui nous permet d'avancer. De la chambre des enfants, j'observe entre les pins parasols le phare de Goulfar, colonne de pied adressée dans la nuit, dont la pâle lumineuse tourne inlassablement. On dirait un hélicoptère avant l'envol. Peut-être rêve-t-il de porter encore plus loin la lumineuse blancheur de sa main tendue. Devant la lande, la maison est un bateau. Elle navigue sur la terre, rassurée par cette lumière quand le soleil disparaît dans l'océan. Les chats sommeillent sur le divan, livres et tableaux se taisent auprès du piano blanc. Dehors, les fleurs ondulent sous le vent. Les vagues des jours caressent les fenêtres. C'était des poèmes de Philippe Matty, parus notamment dans le recueil « Dans le vent pourpre » que l'on peut retrouver aux éditions « L'herbe qui tremble » et également aux éditions « Le Taillis-Pré ».
Avant ce petit impromptu de Ben Harper, c'était Cédric Merlan à la lecture des œuvres de Philippe Matty. Le temps passe, le temps court, nous avons encore beaucoup de choses à entendre. Je vous propose d'écouter les conseils successivement de Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges, notre partenaire, et de Georges Catalot, lui aussi pilier de cette revue légendaire des charges, qui nous présentera deux poètes en miroir, on va dire.
Revue audio du mois, numéro 52, texture numéro 2. Depuis sa disparition en juillet 2019, les amis de Michel Baglin se sont groupés en association pour honorer sa mémoire. Cette seconde anthologie, qui devient donc annuelle, se place dans le souvenir et la continuité de l'œuvre de Michel Baglin, comme il est dit dans sa préface. Texture fut d'abord le nom de la revue qu'il dirigea avant de devenir un site critique de poésie sur le net qui a disparu à présent des radars. C'est Jackie Baglin, sa femme, qui ouvre le livre avec un texte, « La musique de notre vie », où elle narre l'aspect musical de son mari. Brassens, pour commencer, un de ses derniers livres lui était consacré avec Guy Alix, puis Ferré, que le couple chantait à tue-tête, moment rare où le présent ne se sait vivant, Nougaro. Pour aller à grands traits, le jazz, la musique classique, on apprend que Michel jouait du piano. Pour finir avec des textes de Michel Baglin mis en musique par ses amis musiciens et compositeurs comme Martin Kaplan ou Jacques Ibanez, lequel raconte à la suite comment il mit en place un récital avec Michel. Trois textes de chansons sont publiés pour clore cette partie initiale, Voix de justice, Erreur fatale et L'ordre. C'est la femme éternelle figée dans ses dentelles, le masculin dressé à parler singulier, la solitude servie à la croisée des lits et l'hiver infligé à ma moitié d'été. Puis l'anthologie proprement dite avec une quarantaine de noms dans l'ordre alphabétique au sommaire. Il n'y a pas de thématique privilégiée, il y a ceux qui dédient leur texte à Michel Baglin, ainsi Marie-Josée Christian, Nous ne connaîtrons les raisons du cosmos qu'en perçant les mystères de nos corps, ou Jean Le Buel, Suivre le chemin que tu traçais, ou encore Patrick Penaud et ceux qui s'y réfèrent dans leur page, ainsi Jacques Ibanez, qui rappelle une anecdote, ou Colette Klein, qui, pour se souvenir, compose un texte en y intégrant les titres de livres de Michel Baglin. Chantal Dupuis-Dunier ou Jacqueline Saint-Jean offrent des poèmes élégiaques, consacrés aux êtres chers disparus. Nous portons nos morts dans le vif du corps. Également, pas très loin, Jacques-François Piquet, les adieux. D'autres, comme Alain Noblet et François Pornon, parlent de gestes barrières et de Covid. Mais la plupart des auteurs donnent des textes libres simplement pour être présents afin de célébrer leur ami. Guy Alix, Tu as beau dire, tu as beau fuir, tu restes le sans-voix, c'est insensé. Philippe-Marie Bernadou, là où les lignes des vignes répètent leur punition fertile. Guy Bernot, le trésorier de l'association, présente deux photos illustrées par des textes de Régine Bernot-Philippe, qui en est la présidente. Patricia Castex-Monnier parle de pluie joyeuse ou de pluie triste. L'eau du ciel dépend tellement des événements du cœur. Georges Catalot reparle de chansons, des airs qui vont et puis qui viennent pour marteler les insomnies ou pour labourer la mémoire. François de Cornière, bien reconnaissable, qu'est-ce que c'est d'autre un poème qu'un petit sac d'émotions mal fermé. Jean-François Dubois, à la fois grave et léger. Louis Dubo, Michel Ferrer, la nuit descend doucement ses cendres sur la neige. Colette Gibelin, qui parle d'oiseaux puis de peupliers. Guénane, accueillir la nouvelle récolte des soupirs. Jean-Noël Guénaud, qui republie des textes 2013. Alain Kiaouès, qui met Lyon à l'honneur, et on est bien d'accord avec lui. Marie-Lise Leroux, l'œil s'attarde aux courbes de l'été. Jean-Claude Martin fait des jeux de mots, MAUX, et le port, PORC, salut. Jean-Loup Martin qui revisite Orphée et Eurydice. Roland Nados en dédicace au marché de la poésie. Un essaim d'ego. Enfin, Jean-Claude Touzeil qui se souvient de l'épicerie du bourg. Adhésion à l'association 15 euros. L'anthologie 10 euros. Ordre à l'association littéraire Texture. Guy Bernot, BERNOD, 4 impasse Louise Michel, 31-270, Cousin. À la prochaine fois.
Bonjour à toutes et à tous. Et ici Georges Catalot pour la quatrième chronique des poètes absents et poètes présents. Aujourd'hui, je vais présenter Georges Godeau et François de Cornière. Georges Godeau, donc 1921-1999. Citation d'ouverture. L'émotion du lecteur est le seul traducteur autorisé du poète. C'est de Georges Mounet. Pour toutes celles et pour tous ceux qui ont eu la chance et le bonheur de croiser un jour Georges Godeau, son œil espiègle et vif n'aura cessé de les poursuivre. On ne lit plus guère ce poète et c'est bien regrettable. Disons aussi que tous ses livres sont épuisés, alors on peut rêver qu'un éditeur courageux reprenne tous ses poèmes. Et pourquoi pas Gallimard, par exemple, qui, grâce à la volonté de René Char et de Georges Mounet, édita en 1962 son premier livre intitulé « Les mots difficiles ». On peut rêver. Oui, dommage. Dommage qu'on ne puisse plus guère lire ou relire Godeau, car pendant les années 60 jusqu'en 2000, en gros, il occupa une place à part dans la poésie vivante. Il fut maintes et maintes fois copié, pillé, imité par des épigones sans envergure qui ont écrit des poèmes d'une banalité consternante. Ben, ses suiveurs n'avaient pas compris la difficulté qu'il y avait à traduire en peu de mots et d'images tout un ressenti. Cette poésie du vécu et de l'émotion, sans en donner l'apparence, était d'une grande exigence. On la résuma trop hâtivement sous le facile vocable de poésie du quotidien. Car à la lecture ou à l'écoute des poèmes de Godeau, il ressortait une trompeuse simplicité d'écriture. En effet, cette poésie semblait couler de source, alors qu'elle était le fruit d'un subtil alliage, d'un précipité photographique, d'une malicieuse pirouette et d'un raccourci poétique vertigineux. Le poète présent que je présente maintenant, c'est François de Cornière, né en 1950. Et lorsque Louis Dubost, responsable des éditions du Dé Bleu, édita « Tout doit disparaître » en 1984, la filiation avec l'œuvre de Godeau parut évidente, avec une nouvelle dimension propre à cette époque. Nul ne mesurait alors à quel point ce livre allait bousculer le petit monde feutré de la poésie formaliste de ces années-là. On pouvait y découvrir des poèmes limpides et compréhensibles par le commun des lecteurs. Ces écrits, en prise directe avec la réalité et le réel, étaient lestés d'une charge émotive rarement lue jusqu'alors. On y devinait en filigrane, dans les poèmes de François de Cornière, une forte connaissance des courants poétiques précédents, ainsi que des codes propres à ce genre d'écrit. Et ceci, dans une farouche volonté de rendre accessible une poésie à dimension humaine pour un large lectorat. Ce qui fut le cas. Et François de Cornière entraîna dans son sillage toute une génération de jeunes poètes qui le sont moins maintenant et qui nouèrent entre eux d'amicales et fraternelles relations. On peut en nommer quelques-uns comme Michel Baglin, Jean-Claude Martin, Lucien Vasselin, Pierre Autin-Grenier, Jean-Pierre Georges et tant d'autres édités pour la plupart au Des Bleus de Louis Dubost. Depuis 10 ans, les livres de François de Cornière, 5 au total, ont paru aux éditions du Castor Astral et sont disponibles en librairie. Le dernier, intitulé « Quelque chose de ce qui se passe », vient de sortir en mars 2021. Avec courage et détermination, le poète François de Cornière avance, car, écrit-il, « je connais le danger de revenir en arrière ». Et pour finir, une citation pour boucler cette chronique, elle est de Pierre Autin-Grenier, qui écrivait « Le poète bricole dans l'essentiel ».
Un grand merci à Georges Catalou pour cette excellente chronique. Relisez Godot, relisez Cornière. C'est d'ailleurs le conseil que va nous donner à son tour son ancien éditeur Louis Dubost, dont l'heure est venue d'entendre la chronique. Ensuite, vous aurez rendez-vous avec Jean-Claude Touzet. Je fais très vite parce que nous avons beaucoup à écouter aujourd'hui. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancière. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue. Écoutons Louis Dubost puis Jean-Claude Touzet.
C'est à cause du titre. C'est le titre du quasi premier livre de François de Cornière publié il y a une quarantaine d'années. À force de lire un peu de tout, et même de la poésie, je me suis interrogé sur la fonction du titre dans un livre. En effet, c'est le titre qui amène bien souvent à ce qu'une rencontre se produise entre un lecteur et un auteur, et réciproquement. Sans vergogne aucune, je me permets d'exposer à ce propos ma petite expérience d'auteur et ma pratique boulimique de lecteur. Pour chaque livre, le titre pose problème à son auteur. Le titre est rarement là quand commence le travail d'écriture et de construction du livre, même si un prétexte flou préchauffe la mise en route. Parfois, une idée peut surgir au détour d'une ligne ou d'un chapitre, elle reste cependant une vague idée, et ce n'est pas avec ce genre d'idée qu'on fait des livres, mais avec des mots qui leur donnent substance et existence. Dès que l'on croit le livre terminé, le problème devient préoccupant, voire douloureux. Parce qu'on sait bien que le livre sera véritablement achevé que lorsqu'il recevra son titre. Et un titre, ce n'est pas un simple emballage, même si, ça va de soi, l'auteur espère qu'il puisse emballer un lecteur. Car le lecteur averti cherche à nourrir sa curiosité et son intelligence et ne se contente pas de grosses ficelles aussi rutilantes soient-elles. Or, un titre a pour fonction d'incarner le contenu. Il en condense et synthétise ce qui est donné à lire. Pas question de traficoter la marchandise. En général, on constate que les bons écrivains trouvent les bons titres. L'exemple de 2 des livres les plus lus de la planète littéraire l'atteste. Le Petit Prince et L'Étranger. Antoine de Saint-Exupéry et Albert Camus. Chacun a son écriture singulière et un lectorat universel. 2 titres avec peu de mots. Tout simple, qui parle haut et fort et que n'importe quel lecteur peut entendre, comprendre et s'approprier. Ainsi en est-il également des poètes, tels Antoine Aymas, dont l'écriture grattée, dégraissée, concise mais généreuse dans le minimalisme, s'incarne dans des titres à mots uniques, peau, os, sable, sauf, à 2 mots, de peu, ou au maximum 3 mots, de l'air. Tel, de James Sacré qui entremêle réalité et sémantique dans une écriture qui brasse les banalités fuyantes presque inaperçues, avec des mots qui leur donnent relief et singularité, dans un détournement obsessionnel des habitudes langagières, ce titre qui résume quasiment l'œuvre entière, Le renard est un mot qui ruse. Ou encore Valérie Rousseau, dont le prénom et le nom transformés par un de ses amis en un acronyme Vrouze, titre qui personnalise on ne peut mieux un de ses livres. Voilà des titres qui témoignent de l'identification consubstantielle d'un livre à son auteur, d'un poète à son œuvre. Et l'autre partenaire du livre, le lecteur, n'a pas moins de difficulté à trouver un titre qui ouvre son appétit. Certes, il y a les auteurs que l'on connaît déjà et dont on poursuit la fréquentation régulière, quel que soit le titre du livre proposé. Le problème se pose lorsque l'on ne connaît pas l'auteur. Ça vaut pour les nouveaux écrivains, bien sûr, mais pas seulement. Je me souviens de deux livres, il y a longtemps déjà, lus à cause du titre. Kant et l'ornithorynque, d'Umberto Eco, dont je ne connaissais que le film adapté du nom de la rose, et Les rouilles encagées, de Benjamin Perret, un poète surréaliste trop méconnu. Le premier livre choisi pour son intérêt philosophique supposé, le second pour mon goût de la contrepétrie. Et je n'ai pas été déçu des voyages faits en leur compagnie. Comme disait Michel Lebris, l'étonnant voyageur de Saint-Malo, l'aventure humaine, c'est découvrir ce qu'on ne cherche pas. Ainsi, d'aventure en aventure, j'ai pu lire « La petite écuyère à cafeter » de Jean-Bernard Pouy et les livres au titre Calembour des éditions Baleine, « Le bonheur est au fond du couloir à gauche » de J.M. R., « Love Me Tender » de Constance Debré, « Toute une vie bien ratée » de Pierre Autin-Grenier, Einstein, le sexe et moi, d'Olivier Liron, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois, Le problème Spinoza, d'Irvine Yalom, Petit traité de l'art délicat d'écaler les œufs durs, de Roger Lahu, Le bourreau de Gaudi, d'Aro Sens de la Maza, etc., etc. Et tout dernièrement, entre Noël et le jour de l'an, j'ai découvert Le petit Jésus et la vie sexuelle des poètes, des nouvelles jubilatoires d'Éric de Jaeger. L'aventure se poursuit bien souvent dans l'œuvre de l'écrivain découvert par hasard. On lit les autres titres figurant dans sa bibliographie, de sorte qu'un monde jusque-là inconnu, voire étranger, devient familier et très vite indispensable. On pourrait presque en déduire que le lecteur, s'appropriant une œuvre, partage avec l'auteur le titre de propriété de l'œuvre. C'est ainsi que, selon John Kalman Stephenson, naît et s'affermit l'étrange alliage qu'on appelle littérature. Pour terminer, une anecdote personnelle. Un peu avant Noël, je suis allé dans la librairie où j'ai mes habitudes. En m'apercevant, la libraire m'a accueilli par un « Tiens, le papier est sorti du coffre de sa voiture ». Allusion souriante au titre de mon livre, on a mis papy dans le coffre de la voiture, tout juste réédité début décembre, et dont, m'a-t-elle informé, elle s'apprêtait à commander un troisième réassort. Comme quoi, le titre d'un livre, ça fait un auteur et ça accroche des lecteurs.
Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, 2022, on commence l'année avec des poèmes de Taneda Santoka. C'est un poète japonais. Comme ses collègues, je mets des guillemets à collègues bien sûr, il a connu, après des études brillantes, etc., une vie un peu plus dissolue et il a fini moine zen, vagabond sur les routes, avec un gros penchant pour le saké. On peut trouver ses haïkus, quelques livres en français, par exemple Zen, Saké, Haïku, chez Mondaren, dans le bal du mendiant, atelier Manda. Voilà. Alors, je vais les lire deux fois, je ne bégaye pas, c'est simplement pour donner toute sa force au haïku. du matin au soir, écoutant le bruit de mes pas, je marche. Une pierre pour oreiller, j'accompagne les nuages. Une pierre pour oreiller, j'accompagne les nuages. Le riz est savoureux, le ciel bleu, bleu. Le riz est savoureux, le ciel bleu, bleu. De la lune tombe toute seule une feuille de kaki. De la lune tombe toute seule une feuille de kaki. Un corbeau croasse, je suis seul, moi aussi. Un corbeau croasse, je suis seul, moi aussi. Me voilà là où le bleu de la mer est sans limite. Me voilà là où le bleu de la mer est sans limite. Le vent des montagnes dans la clochette. Un puissant désir de vivre. Le vent des montagnes dans la clochette. Un puissant désir de vivre. Rien de plus facile à dire, ni de plus difficile à faire, que de lâcher prise. Rien de plus facile à dire, ni de plus difficile à faire, que de lâcher prise. Dans mon bol de fer, en guise d'aumône, la grêle. Dans mon bol de fer, en guise d'aumône, la grêle. Et le dernier pour terminer. La neige tombe sur la neige. Silence. La neige tombe sur la neige. Silence. Voilà. Et puis j'ai terminé comme d'habitude avec deux, trois poèmes today avec des essais de haïku. Que voici, que voilà. M'embraye sur la neige. Neige ce matin. Les mésanges me réclament des boules de graisse. Neige ce matin. Les mésanges me réclament des boules de graisse. Présent des embruns, le mordant baiser du sel dans les plis du vent. Présent des embruns, le mordant baiser du sel dans les plis du vent. Il est interdit de chatouiller la statue de la liberté. Il est interdit de chatouiller la statue de la liberté. Marin Blonfilas, buvant de la bière au bar, t'engage et roulis. Marin Blonfilas, buvant de la bière au bar, t'engage et roulis. Premier jour de gel, le rouge-gorge s'approche de la perfection. Premier jour de gel, le rouge-gorge s'approche de la perfection. Dimanche matin, arbre marchant d'un bon pas autour du plan d'eau. Dimanche matin, arbre marchant d'un bon pas autour du plan d'eau. Bisous interdits, deux coquelicots chuchotent des mots ultra doux. Bisous interdits, deux coquelicots chuchotent des mots ultra doux. Voilà, pour aujourd'hui, portez-vous bien surtout. À bientôt.
Savez-vous ce que c'est qu'une vie pour rien? Une vie où tous les rendez-vous se sont cassés la gueule sur des quiproquos, des erreurs de standardistes, des faux horaires de train. Vie impasse et joyeux gogo du cul-de-sac, avec flics casqués qui barrent l'unique issue. Entrée d'immeubles bouclés et des bourgeois aux fenêtres qui bouffent des biscuits. Vous gueulez tout au fond de vos têtes des appels de vie. Je veux être, regardez-moi, j'existe. Mais vous ne savez rien de tout cela parce que sur vos agendas il y a des noms, des adresses, des épancheuses de mélancolie et vous ne saurez jamais l'angoisse d'être différent. Fumez un cigare de Cuba et dites-vous bien que nos vies sont des cartes postales, sans plus. Cinq mots. Tout va bien, baiser, salut. Dans les rues qui vont des aéroports aux arcs de triomphe, il y a des fumées d'encens. La vie est à ceux qui savent engouffrer les mots du langage dans des regards simples. Il ne faudrait surtout plus avoir peur d'aller dans des maisons inconnues et monter des centaines d'étages de misère ensemble. Ensemble. Savez-vous ce que cela signifie? Nous avons miséré ensemble et je l'aime. C'est ce que disait un vieux type aux cheveux de la guerre d'avant. Et il faut que nous misérions ensemble dans des ascenseurs quotidiens. Si un jour il n'y avait plus de mots construits, que toutes les langues d'hommes pourrissent au fond des bouches, derrière des baillons noirs d'oppression, il faudrait bien inventer des langages de peau et des langages codés du regard. Les yeux ne sont pas faits pour recevoir des arcs-en-ciel et des bouts de pellicule en Eastman Color. Il faut dès à présent leur apprendre à émettre de longues lettres de bienvenue. Respirez. Regardez. Dans les souterrains qui relient les maisons aux autres maisons, il y a des fleurs de coca qui pétillent sur des escalators. Et si d'un gouvernement à un autre gouvernement, nous n'avons pas pris le temps de transformer notre façon de tendre la main, c'est qu'un autre gouvernement ne peut rien pour nous et qu'il n'était pas aussi important que cela qu'il ait changé. Inventons des connivences, écoutons, respirons. Respirons avant que l'air ne soit coupé et qu'il débarque nous ramasser étendus et blancs au pied de nos électrophones. Ils sont maîtres de tout, le fric maîtrise l'oxygène. Inventons des gaz de pensée et branchons nos bouches sur d'autres bouches. Il est urgent d'inventer les nouvelles recettes de vie qui échappent aux cartes perforées de la police d'État. Respirons. Chantons. Et il faudra alors marcher inlassablement, bras tendus vers d'autres corps, bras ouverts, et intercepter tous ces obus d'hommes tombés des gratte-ciels de Montparnasse.